RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story dans 15 minutes. Un gagnant, bien évidemment, un gagnant des vacances Bellambra, le séjour tout compris premium dans l'un des 45 clubs hôtels vacances de Bellambra. C'est vous qui choisissez votre destination. C'est un séjour d'une valeur de 2000 euros. C'est la mer, la montagne ou la campagne. Vous pouvez encore vous inscrire et gagner en envoyant vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Faites-vous plaisir. Les vacances en ce moment, c'est pour vous et c'est gratos. C'est du clé en main grâce à Bellambra. Rendez-vous tout à l'heure à 11h20 pour le gagnant. En attendant, avec Elina Dumont, l'intervenante sociale, Antoine Dierce, ce consultant juridique, et Charles Consigny, l'avocat, nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est Gilles Galou qui est avec nous. Gilles Galou qui a été enquêteur à l'Office central cybercrime de la police judiciaire. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi pensez-vous que Xavier Dupont de Ligonnès ne s'est pas suicidé ?
Directement.
Ah bah oui. Parce que je rappelle que le titre de votre livre, c'est Un flic au cœur de l'enquête, Xavier Dupont de Ligonnès, enquête, document inédit, nouveau témoin, itinéraire, correspondance, aux éditions Max Milo, et vous expliquez que pour vous, il est toujours vivant. Loin d'ici, mais toujours vivant.
Voilà, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « il ne s'est pas suicidé ». C'est un long travail d'enquête que j'ai repris en début 2024. L'affaire Ligonnès, moi je l'avais traité en tant qu'enquêteur cybercrime à l'Office central cybercrime de Nanterre, à la DCPJ. Effectivement, on ne l'a pas trouvé en 2011. Moi, en 2024, je suis à la retraite. L'affaire Ligonnès, elle est très loin, je n'y pense plus. C'est à l'occasion d'un livre, un roman qui est sorti, dont le titre s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ». C'est ce titre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès » qui m'a interpellé. Je me suis dit « Mais comment j'ai pu passer à côté d'une info pareille ?» Parce que j'habite aujourd'hui à l'étranger. Je dis « Bon, j'aurais peut-être pu rater l'arrestation de Ligonnès ». Donc j'ai fouillé dans mon portable. Mais finalement, évidemment, c'était un roman, donc c'était pas vrai. Mais fortuitement, le bouquin est arrivé dans ma boîte aux lettres. Je l'ai lu et ça fait remonter des vieux souvenirs et je replongeais dans l'enquête.
Vous avez cherché sa trace numérique, en fait, c'est ça ?
Ouais, en fait, à l'époque, j'étais effectivement enquêteur cyber. J'étais chargé de la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire toutes les traces qu'il pouvait laisser dans sa cavale. Moi, j'étais donc chargé d'essayer de retrouver s'il postait sur ces fameux forums catholiques, dans lesquels, je vous avoue aujourd'hui, en 2026, que je pense que je me suis vraiment enlisé, parce que c'était vraiment très, très compliqué à analyser. Et après, donc, nous, on était vraiment focalisés à l'époque sur la cavale, hein, c'est-à-dire toute cette période qui suit son départ de Nantes en direction de Roquebrune-sur-Argence. Donc, moi, j'étais l'assistant.
Avec cette fameuse dernière photo où on le voit retirer de l'argent à un distributeur dans le Var.
C'est ça, exactement.
C'est la dernière fois qu'on aperçoit Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est le 15 avril 2011, précisément.
Ouais. Le retrait, c'est le 14. Et ce qui est super intéressant, quand on analyse aujourd'hui, en tout cas moi, de mon analyse, je pense que ce retrait n'est pas un hasard. Puisque finalement, Xavier Dupont de Ligonnès, il arrête de se signaler, en tout cas sous les caméras, où il coupe son téléphone au niveau de La Rochelle. On n'a plus de traces. Moi, je suis finalement le seul enquêteur à avoir encore un œil sur lui grâce aux connexions de sa clé 3G, mais vraiment des connexions très furtives, puisque chaque soir, quand il arrive dans les hôtels, il consulte son dernier post sur le site, le forum Cité Catholique. Donc à l'époque, on imagine que peut-être il attend une réponse à ce message. En tout cas, on imagine qu'il y a quelque chose de connecté. Aucune réponse n'arrivera jamais.
Et selon vous, il est où aujourd'hui ?
Alors, où il est aujourd'hui, je ne sais pas. Si je le savais, on serait tous...
Aux États-Unis,
vous devez... Elina lui ressemble un petit peu. Elle est apparue dans les médias une semaine après la disparition de
Xavier Dupont.
Et on n'a aucune photo d'elle antérieure.
Pourquoi la piste des États-Unis est sérieuse, selon vous ?
Ah ouais, alors vous voulez que je vous dise tout de suite la fin de mon enquête, alors que j'ai mis presque deux ans ?
On va pas tout dire parce que...
Il faut qu'il y ait un cheminement.
Il faut que les gens lisent l'enquête.
Mais qui amène aux États-Unis ? Mais ça, pour
qu'on brûle de savoir.
En fait, non, mais pourquoi les États-Unis ? Parce que quand on s'intéresse à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et à sa jeunesse, les États-Unis est un pays qui l'ont imprégné, avec lequel il a fait du business aussi.
Ah mais en fait, c'est le rêve américain.
Voilà.
Xavier rêve depuis toujours de partir en Amérique, depuis qu'il est parti avec son meilleur ami Michel Rétif, dans les années 90. Et ce qui est absolument passionnant, c'est justement quand j'ai retrouvé cette lettre que j'ai publiée au début du livre, cette lettre d'adieu à son ami qu'il considère quasiment comme son frère, parce que je pense que quand ils ont vécu ce grand voyage, cette traversée des États-Unis d'est en ouest, ils ont dû vivre des grandes choses. Et si Xavier Dupont de Ligonnès en parle juste après avoir enterré sa famille, si c'est bien lui le coupable, c'est que ça doit avoir une très grande importance pour lui à ce moment-là. Et justement, il dit, c'est lui qui nous révèle les États-Unis. Il dit, mon petit Mimi, je ne peux pas te dire où je vais, mais nous y étions ensemble en novembre 90. Et donc moi, en plus, il ajoute, il écrit LOL et il dit indice à creuser. Enfin, il faut se mettre dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès à ce moment-là. Il vient d'enterrer sa femme, ses quatre enfants, deux chiens, et il est en train d'écrire indice à creuser LOL.
LOL.
Moi, policier, je le prends comme une provocation. C'est-à-dire, on est dans un jeu de piste.
Mais oui, mais s'il est vivant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, on peut disparaître, alors qu'on est recherché par toutes les polices pour avoir tué sa famille, on peut disparaître, pourquoi pas se réfugier dans un pays comme les États-Unis, qui est quand même un pays moderne et autre, sans plus laisser de traces, c'est-à-dire en pouvant refaire sa vie. C'est possible, ça? On a du mal à le croire.
Ah, alors, je pense que c'est tout à fait possible dans certains États des États-Unis, notamment à la frontière mexicaine, où il y a ce qu'on appelle des « ghost towns », où c'est très connu, il y a des fugitifs qui sont cachés depuis des années. Mais moi, je dis pas que Xavier Dupont-Ligonnès est peut-être toujours aux États-Unis.
Non, mais c'est simplement être en vie.
Être en vie.
À échapper à la traque policière, sans vraiment d'argent, puisqu'il était pas riche, enfin bon, il avait pas, et pouvoir vivre toutes ces années, cachées.
Est-ce qu'on est vraiment certain qu'il avait pas d'argent?
C'est-à-dire, je vais poser une question.
Alors pourquoi
dit
ça?
Parce que finalement, quand on regarde, si on se remet à Roquebrune-sur-Argens, c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce que quand on est policier à l'époque, Roquebrune-sur-Argens, d'abord, personne ne connaît vraiment Roquebrune-sur-Argens. On connaît tous Niscan, mais Roquebrune-sur-Argens est devenu célèbre grâce à l'affaire Ligonnès. Et c'est Xavier Dupont de Ligonnès lui-même qui nous signale qu'il est à Roquebrune-sur-Argens en utilisant sa carte bleue. Il retire 30 euros. 30 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, je suis là, à Roquebrune-sur-Argens, et regardez, j'ai plus de 30 balles. Je suis fauché. C'est pas la seule chose. C'est-à-dire que on a la position de Ligonnès, mais on n'a pas encore l'hôtel. Donc, effectivement, il est en train de nous dire, regardez, je suis ici, mais il est pas recherché encore à ce moment-là. Mmh. C'est juste un marquage de sa position. Nous, on a 10 jours de retard encore, hein. Les corps ne sont pas encore découverts.
On n'a pas retrouvé les corps, oui.
Seulement, on n'a pas encore l'hôtel. Et l'hôtel, qui est-ce qui nous le signale? C'est Xavier Dupont de Ligonnès lui-même. Pourquoi est-ce qu'un homme viendrait regarder sa voiture sur le parking d'un hôtel qu'il a quitté le matin même? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est que de dire, regardez, j'ai dormi dans cet hôtel. Effectivement, quand la patrouille de gendarmerie trouve la voiture, ils alertent la Bérénice qui encercle l'hôtel. Tout le monde s'imagine que Xavier Dupont de Ligonnès est dans l'hôtel.
Vous dites qu'il joue avec les policiers.
Moi, j'en suis intimement convaincu, vous avez raison.
Ouais. Et pourquoi? Défi.
Je pense qu'il y a une sorte de défi. Xavier était un homme passionné de lecture de livres criminels. D'ailleurs, il nous laisse sur sa table de nuit un roman de Dan Brown, Disparu à jamais, ce qui est déjà.
Moi aussi, j'ai tué personne.
Vous êtes passionné.
Comme ça, quand même.
ou alors, il se promène dans les couloirs de l'hôtel sous les caméras avec un autre roman policier, une affaire criminelle. Enfin, il y a quelque chose de provocant pour nous, les policiers.
Alors, Elina.
Ouais, j'avais quelques. Bon, évidemment, cette histoire, comme beaucoup d'affaires, je suis ce genre d'affaires à fond. Ce rêve américain, j'ai lu votre livre, enfin voilà. Ce rêve américain, il aurait pu le faire. Il n'avait pas besoin de tuer tout le monde, puisqu'il avait déjà l'héritage de son père. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une vraie.
Un vrai mobile.
Et vous savez, j'ai envie de vous dire un truc. Je comprends très bien. On a tous envie de fantasmer. Voilà, peut-être il est là, il est caché là. Combien de fois je vais vous raconter une petite histoire après. Et combien de fois le gars, il était caché à 500 mètres de là où il avait fait le braquage, quoi. Vous voyez. En tout cas, en France. Alors aux États-Unis, je sais pas. Mm-hmm. Mais en France, je peux vous assurer, pour disparaître, c'est tout bête. Vous devenez sans abri. Et là, vous disparaissez.
C'est que tu as été pendant quelques années, je le
voilà.
rappelle.
Voilà. Hein. Et je peux vous le dire parce que moi, je connais des gens qui ont disparu de la circulation. Et en fait, on devient tout simplement SDF. On n'a plus de carte de sécurité.
Oui, mais lui, il n'est pas SDF, lui.
Non, il n'est pas SDF.
Non, mais on ne sait pas où il est.
Oui, d'accord, mais il n'est pas SDF. D'ailleurs, s'il a tué sa famille, c'est peut-être parce que c'est ses problèmes d'argent. Il empruntait de l'argent
mais
à tout le monde. Il n'arrivait plus à rembourser. Donc, on voit bien quand même que c'était quelqu'un qui était.
Il rêve de grand.
L'argent, c'était important pour lui.
Oui, mais justement, ces gens-là, ils deviennent comme ça. Soit ils finissent comme l'affaire Roman. Ils n'ont plus de thunes. Ils font semblant de se tuer. Ils restent vivants. Ou alors. Il tue tout le monde parce que en fait il est là le fond du problème.
Oui, mais alors justement on a dit par exemple qu'il pouvait s'être réfugié dans un monastère.
Alors je veux revenir sur l'argent. Ouais. L'argent s'est établi, c'est-à-dire qu'il était dans une déchéance financière, ouais. Mais je pense que ça ne suffit pas à expliquer pourquoi il a tué toute sa famille. Tout le monde ne tue pas sa famille parce que on est dans une déchéance financière. Et justement c'est l'analyse de ces lettres qui permet peut-être de comprendre l'origine de cette affaire. Et il faut remonter à 2003. Et c'est lui-même qui en parle dans cette lettre que tout le monde connaît, coucou tout le monde. Dès le début de la lettre, il explique, il dit mais vous avez quand même pas cru qu'on est rentré des États-Unis parce qu'Agnès voulait pas faire vacciner les enfants. Mais il vient de tuer sa famille, comme tout à l'heure. Et dès le début de la lettre, il est en train de se justifier sur une affaire qui date de 2003. C'est vraiment curieux. Donc moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2003. Et en 2003, ils se sont expatriés, toute la famille aux États-Unis, pour vivre le rêve américain. Seulement, le rêve américain, il a duré presque trois mois et demi, pendant lequel ils ont brûlé tout l'héritage de la famille d'Agnès.
Ça, c'est vrai.
Et donc, pourquoi ils sont rentrés? Personne ne le sait. Moi, depuis deux ans, j'ai rencontré tous ces amis qui sont encore vivants. Et tout le monde me dit, quand Xavier est rentré en 2003, il était plus le même Xavier. Quelque chose s'est passé là-bas, personne ne sait quoi. Alors, est-ce que Agnès a obligé Xavier à rentrer des États-Unis et qu'il lui en veut? Puisque finalement, quand on regarde après, le couple périclite. Mmh. En 2003, il rentre, et puis en 2015, le couple se sépare, puisque Xavier quitte le domicile conjugal. Il va aller vivre pendant plusieurs mois, presque 9 mois, chez un de ses amis. Mmh. Donc, il y a peut-être quelque chose connecté avec ce 2003 qui serait au-delà de cette déchéance financière.
Antoine Hirsa.
Moi, je l'ai déjà dit ici, je suis pas un fan des affaires judiciaires. Je suis pas ça parce que je me dis qu'on n'aura jamais la réponse et donc je passe à autre chose. Mais ce livre, il est fascinant là-dessus. L'enquête est très intéressante, c'est haletant, mais il est extrêmement intéressant sur un second aspect de la lecture. C'est vous, c'est cet enquêteur qui tient bon, qui s'accroche, qui dépasse un peu les limites de sa fonction, parfois trop, qui est sanctionné par la justice, vous l'expliquez. À ce moment-là de la lecture, j'ai une espèce d'empathie immense pour vous en me disant mais ce bonhomme qui se défonce pour essayer de trouver la solution, la justice vient le sanctionner, la scène à l'inspection générale de la police, là, elle est atroce. Mais voilà, ma question c'est ça, c'est pourquoi vous vous accrochez autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez jusqu'à risquer votre carrière, votre famille pour cette affaire?
Ah, vous avez super bien vu le truc. Peut-être qu'il y a quelque chose, une thérapie finalement dans mon livre.
Je pense.
Ouais. Oui, je pense. Je devrais peut-être aller voir un psy pour voir si derrière laquelle. Mais le fait justement d'avoir été condamné pour cette affaire, alors que
pourquoi vous avez été condamné, il faut l'expliquer.
J'étais condamné puisqu'il y a des documents de mon enquête qui ont fuité dans la presse. Et en fait, c'était moi qui avais partagé des documents sans importance, que tout à fait j'assume d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais bon,
dans l'objectif
du point de vue pénal, j'étais coupable.
C'était pour faire avancer l'enquête. Donc,
bien sûr, dans le seul but de retrouver Xavier Dupont et Ligonnès. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait il y a 20 ans.
C'est-à-dire, on fait fuiter pour déclencher des événements, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Et ça, on vous l'a reproché.
Oui, on me l'a reproché, j'étais condamné. Mais il m'a semblé que la justice avait été un petit peu forte avec moi. Et peut-être que j'ai eu un traumatisme à ce moment-là, mais ça intéresse personne. C'était juste pour expliquer pourquoi je relance.
Je reviens quand même à l'idée. Alors bien sûr que d'imaginer qu'il soit en vie est plus excitant, si j'ose dire, entre guillemets, lorsqu'on aime bien ces histoires de traque, de disparition, qu'imaginer qu'il s'est suicidé quelques temps après. Mais peut-être parfois la vérité, elle est moins romanesque.
Oui, oui. En fait, moi, quand je vais à Roquebrune, au départ, moi, je reprends pas l'enquête. Enfin, j'écris même pas de livre. C'est le fait d'avoir fait la relation entre un vendeur de camping-car de Roquebrune-sur-Argens et un vendeur de camping-car de Nantes qui m'a alerté, en fait. C'est là où je me suis dit, mais 15 ans après, on peut encore trouver quelque chose. Et donc, quand j'ai fait ce lien entre Roquebrune et Nantes, je dis, mais voilà, puisque finalement, le vendeur de camping-car est exactement dans la même zone commerciale que là où il a acheté tout ce qu'il fallait pour enterrer les corps. Donc, est-ce que Xavier, il serait pas passé au Jardiland, au Castorama, il se serait pas arrêté pour commander un camping-car? Parce que si vous regardez le site internet qu'on peut afficher comme il était à l'époque, vous pouviez louer un camping-car à Nantes et le retirer à Roquebrune-sur-Argens. Donc finalement, la piste était cohérente.
Non, mais deux questions. D'abord, comment il peut être aux États-Unis, qui n'est pas non plus le désert namibien, et ne pas être identifié, alors qu'aujourd'hui, dans les pays modernes, on passe son temps à donner son identité, à être vidéosurveillé, à utiliser des cartes de crédit, etc., premièrement. Deuxièmement, selon vous, pourquoi est-ce qu'il a tué toute sa famille ?
Alors, première question, je ne crois pas qu'il soit encore aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'essaie de remonter la piste. Peut-être qu'il est en Argentine, peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il est mort du corona, j'en sais rien. Moi, j'essaie de trouver des éléments, petit à petit, comme j'ai trouvé le camping-car, etc., pour remonter la piste. Donc là, j'ai trouvé plusieurs éléments qui démontrent que dans les jours qui suivent sa disparition, c'est-à-dire le 15 avril, il était probablement vivant, puisque j'ai trouvé quatre personnes dont les témoignages semblent corroborer l'hypothèse qu'il était toujours vivant, au moins jusqu'au 21, la découverte de la voiture. Donc, si, a priori, il ne s'est pas suicidé, s'il devait se suicider, il ne s'est pas suicidé dans la foulée, en tout cas. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, s'il ne s'est pas suicidé là, pourquoi il va se suicider encore plus tard?
Ouais. Oui, et donc, pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
Pourquoi il a tué sa famille?
D'abord, selon vous, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'est procuré des faux papiers? Comment il fait pour...
Alors, je pense qu'on devrait lancer un appel à témoins sur les grandes gueules et dire, Xavier, si tu nous entends, appelle. Parce que moi, j'en sais rien où il est.
Comment on fait pour vivre tous les jours quand on est recherché par la police?
Moi, personnellement, je pense qu'il y a une femme derrière tout ça. Je pense qu'un homme ne peut pas partir seul, abandonner toute sa vie d'avant. Je pense que quelque part, il y avait une femme qui l'attendait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quatre femmes.
Faut rappeler ça.
Il a quand même repris contact avec quatre anciennes amoureuses de jeunesse. Et en plus, à qui il a demandé des photos? Alors ça, c'est terrible parce que s'il va se suicider, pourquoi est-ce qu'il va demander des séries de photos à tout son entourage, à ses amis, avant de partir? À mon hypothèse, c'est que en 2011, Xavier Dupont de Ligonnès, il maîtrisait déjà parfaitement tout ce qu'aujourd'hui nous on utilise, les Google Drive ou les OneDrive ou je ne sais quoi. Enfin, les données dans le cloud. À l'époque, moi-même, j'utilisais pas de cloud, mais lui, toutes ses données personnelles étaient déjà stockées dans le cloud. Donc pourquoi est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait pas lui-même créé un cloud, je ne sais où, et pour pouvoir avoir de temps en temps un petit coup d'œil nostalgique sur sa vie d'avant depuis sa nouvelle vie?
Mais monsieur, je voudrais vous dire quelque chose.
Dernier mot.
Alors, aidé par une femme.
Oui, peut-être.
Vous savez, je vous dis, je suis ses affaires à mort. Bon, évidemment, roman et celle-là.
Jean-Claude Roman, il faut expliquer
Jean-Claude Roman
qui avait tué aussi sa famille.
J'ai lu aussi d'autres affaires.
Il a été ensuite arrêté.
Et à chaque fois... Quand il tue toute la famille, c'est parce qu'il y a eu mensonge, il n'y avait plus d'argent dans la famille.
C'est ça.
Et bien pour moi, c'est ça.
C'est une nouvelle affaire, Jean-Claude Roman.
En fait, il y a deux possibilités. Soit Xavier se suicide et ses enfants découvrent que le papa, c'est un loser. Ou soit il tue tout le monde et personne ne saura jamais que c'est un loser. Peut-être, c'est mon hypothèse.
Ça, c'est merci, c'est passionnant, c'est un vrai jeu de piste. Ouais, un enquêteur au sein de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, Gilles Gallou.
Si je peux me permettre. Gilles Gallou, GG. Ouais. GG, c'est quelque chose.
C'est vrai. Aux éditions Max Milo avec un itinéraire, des documents, des perspectives qui sont données, des hypothèses. Merci d'être passé par Gilles Gallou. On va d'abord, avant de continuer au sujet de discussion, aller du côté de la Seine-et-Marne. C'est Patrick qui est avec nous. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
C'est vous qui êtes le chanceux du jour, parce que c'est vous qui gagnez les vacances Bellambra, Patrick.
Ah ben, c'est très heureux. J'en suis très content.
Vous avez envoyé vacances par SMS au 7-32-16. Vous avez été attiré au sort et vous gagnez séjour à la mer ou à la montagne ou à la campagne, mais c'est du tout compris premium. Est-ce que vous savez où vous allez aller, Patrick?
À la mer, parce qu'il y a beaucoup d'années que j'ai pas vu mon fils qui est à Perpignan.
Ah bah écoutez, vous pourrez l'emmener aller du côté de la mer, vous regarderez la carte des 45 clubs et vous rapprochez de votre gamin du côté de Perpignan, pourquoi pas. Patrick, bravo, félicitations à vous et on continue de jouer demain les grandes gueules au Salon de l'Agriculture, je vous le rappelle.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Et dans un instant, les élections municipales, on a des maires qui se présentent pour la 6e, 7e, 8e fois. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de mandats des maires dans le temps? Bien évidemment. 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. N'oubliez pas les GG demain au Salon de l'Agriculture, au stand des Hauts-de-France. Nous y serons en direct de 9h à midi, les amis, avec nos GG, des grandes gueules qui vous attendent à Belboyer, Emmanuel Devilliers, Barbara Lefebvre, émission en direct et en public. Mais là, tout à l'heure, mercredi de midi à 15h, à l'heure du déjeuner, si vous aimez vous promener au Salon de l'Agriculture pour grignoter les bonnes spécialités au stand des Hauts-de-France, eh ben vous serez avec l'équipe d'Estelle Midi. Elle sera là-bas avec toute sa bande, Estelle, jusqu'à 15h. On a encore des petits sujets de discussion là jusqu'à midi avec les GG. Là, on va s'intéresser au nombre de mandats pour les élections municipales. On a des maires qui sont en place aujourd'hui depuis un demi-siècle.
J'ai deux exemples à vous donner. André Santini, le maire d'ici les Moulineaux, il brigue à 85 ans un huitième mandat. Il a lancé sa candidature depuis l'hôpital parce qu'il est hospitalisé. Ah ouais. Il est malade, André Santini. On le connaît bien, on l'a reçu.
Suite à un prompt rétablissement.
Bien sûr, on l'a reçu maintes fois, André Santini. C'est un bon client, comme on dit dans les médias. On le voit moins parce qu'il est malade, mais il veut rester maire, donc il brigue un huitième mandat. Autre exemple, Laurent Catala, socialiste. Il est maire de Créteil, qui est une grande ville de région parisienne dans le Val-de-Marne. Il est maire depuis près de 50 ans. Et alors Laurent Catala nous dit « J'ai toujours la passion de ma ville et donc je me représente pour la 9e fois ». Alors vous imaginez, alors bien sûr ils peuvent le faire et puis ce sont les électeurs qui décideront. On a limité dans le temps le nombre de mandats pour un président de la République. Par exemple, Emmanuel Macron, là, il peut en faire deux, il peut pas en faire un troisième de suite. Alors, il pourra en faire un troisième plus tard, donc on a limité dans le temps. Est-ce qu'il faut limiter dans le temps le nombre de mandats pour les maires ou est-ce que c'est aux électeurs de le décider?
32-16 pour le dire aux grandes gueules, Antoine.
Moi, je le dis toujours, laissons les électeurs décider. Si t'as un bon maire, même s'il est là depuis 50 ans,
t'as connu
qui fait
lui,
bien
hein.
le boulot.
T'as connu
voilà.
que lui en même temps. Hein.
Oui, mais tu vois que ta ville, elle est bien gérée par rapport à d'autres. Pourquoi un texte de loi devrait venir t'empêcher de conserver ton bon maire? De la même manière, sur la présidentielle,
Il faudrait qu'Emmanuel Macron puisse se représenter,
ouais.
là.
Bah oui, il serait pas réélu, hein, rassure-toi, ou rassure-moi. Mais j'ai une vraie difficulté avec le fait de contraindre l'électeur. Et je pense que l'électeur, bah le vote, c'est la sanction parfaite. Si ton maire est bon, tu le gardes. Si ton maire est pas bon,
oui, mais je prends un exemple. Je suis un électeur de gauche. Donc si Laurent Catala est investi par la gauche, ça sera le candidat de la gauche. Bon, il y a un autre, donc à côté, il y aura un candidat de la droite et du RN. Bon, ben je veux dire, bah, je vais pas voter à droite, j'ai jamais voté à droite, donc par défaut, je vais voter Catala, mais finalement, j'aurai pas vraiment le choix, puisque c'est lui qui aura été investi par le parti et qui sera quasiment le seul candidat.
Je pense que
donc, en fait,
y a
pas vraiment le choix.
Tu surévalues les étiquettes partisanes au niveau des municipales. Il y a des gens de droite qui votent pour leur maire de gauche, il y a des gens de gauche qui votent pour leur maire de droite au municipal. Hein, c'est le boulot.
Elina.
Ben, écoute, moi, ce que je me dis, si ce maire enfin, ces maires là qui ont des mandats depuis 9 ans, c'est que les autres...
Pas 9 ans.
Non, mais...
9 fois 6.
Ouais, enfin bref, t'as compris ce que je veux dire.
Ans, ouais. 40...
ça veut dire que les autres sont pas convaincants.
Mais parce que personne ne se présente face à eux. Parce qu'ils sont omnipotents, en fait. Parce que les gens se disent, je vais pas me présenter face à André Santini ou Laurent Catala, je suis sûr de perdre. Parce que ces types-là, c'est des barons, en fait. C'est pour ça que, moi, l'idée de dire, mais si vous avez toujours le choix, en fait, t'as pas vraiment le choix. Non. C'est un peu comme le Front Républicain. Mais si, le Front Républicain, ça choix. Ben non, puisque si les gens se désistent et que t'as plus que deux seuls candidats,
Antoine, il a pas tort. Si vraiment le maire, il était nul à chier, quand même, les citoyens, ils voteraient pas pour lui.
À Charles, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis un peu partagé parce que, à la fois, je pense qu'il faut du renouvellement dans le monde politique et que tous ces vieux briscards qui s'accrochent à leur fauteuil, l'air de rien, bloquent l'entrée des nouvelles générations. Et j'avoue qu'en même temps, j'ai une espèce de tendresse pour ces vieux bonhommes qui restent effectivement passionnés par leur métier, par leur office de maire. Et que de toute
ils
façon,
ils veulent mourir sur scène.
Et puis par ailleurs, il y a pas toujours des candidats dignes de ce nom aussi. Voilà, souvenez-vous Jean-Claude Gaudin qui a régné très longtemps
ouais,
sur
Gaudin,
Marseille.
Ouais,
bon, c'était peut-être pas forcément
plein, hein.
une bonne chose pour Marseille,
Fraîche,
mais il incarnait le truc quand même, il portait le truc, je sais pas. Je pense, malgré tout, l'alternance démocratique, elle est quand même possible dans la mesure où, comme le dit Elina, je pense assez justement, si le maire trop âgé donne des signes de faiblesse et ne plaît plus aux administrés, quand même, il est possible de présenter une liste alternative et de remporter le suffrage des électeurs.
Il n'y a pas une distorsion démocratique, je veux dire, quand même, avec un président de la République qui est limité à deux mandats.
Si, et un puis, petit peu,
et
oui.
Tu vois, c'est ça qui est bizarre. La fonction suprême, on la limite. Et pour les municipalités, le maire est quand même le premier magistrat de la ville, là, on lui laisse tout loisir de se représenter et de mettre en place, pardon, c'est peut-être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais en fait, au fil des années, tu mets en place un système. On a toujours appelé ça le système électoral. C'est-à-dire, tu fais un mandat, ça se passe bien, tu es réélu, tu fais le nécessaire pour la population derrière, ce qui est logique, c'est ton deuxième mandat. Et puis après, finalement, si tu veux, tu verrouilles, parce que tu as tous les pouvoirs, tu verrouilles tout, et puis au moment des élections, tu tiens les quartiers, tu tiens les associations, tu tiens les communautés.
Peut-être un peu.
Et donc, tu as ce système, on a toujours dénoncé le clientélisme. Alors, malhonnêteté, d'ailleurs, tu vois, mais c'est simplement une mainmise, légale, mais une mainmise.
On a arrêté le cumul des mandats. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maire, celui qui était à la tête du système clientéliste, il a désigné son second pour prendre l'autre poste et c'est encore lui qui décide. Donc, c'est pas parce que tu empêches le vieux maire de se représenter qu'il te désignera pas son second et qu'il continuera pas à tenir les manettes.
Tu vas me faire croire, toi, Antoine, qu'après 50 ans de mandat, t'as encore des idées neuves, t'as encore la pêche, t'as plus de 80 balais et que tu vas pour ta ville inventer la ville du futur. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'un maire donne tout dans les premiers mandats parce qu'il a envie de réussir dans le premier mandat pour être élu. Et puis, au bout de deux mandats, je pense qu'il commence à ronronner. Effectivement, il n'est plus contesté parce qu'il devient le roi de sa ville, entouré de gens qui, c'est la cour, hein, c'est comme à l'Élysée. Entouré de gens qui lui disent, vous êtes formidable, monsieur le maire, mais oui, vous avez tellement raison. Mais si, ça se passe comme ça. C'est humain, d'ailleurs, c'est humain. Le pouvoir, c'est comme ça. Le pouvoir, quand tu as trop de pouvoir et tu restes trop longtemps au pouvoir, ça t'enferme. Et je suis sûr que André Santini, qui a été sans doute un grand-mère pour Issy Bouineau, aujourd'hui,
il va pas me dire
qu'à 85 ans, il a encore 50 000 idées, qu'il va être moderne.
Benjamin, bonjour.
Il n'a peut-être pas besoin de 50 000 idées.
Salut les GG.
Bonjour, Benjamin. Vous vouliez apporter à notre attention votre commune de Moussy-le-Neuf, c'est ça, en Seine-et-Marne?
Exactement. Très belle petite bourgade au-dessus de Roissy, où on a notre immensément maire, 84 ans, et qui brigue un 9e mandat. Je suis tout nouveau dans la commune, donc je vais pas juger ce qu'il a fait. J'entends à droite à gauche des choses plus ou moins bien, après des détracteurs aussi. À un moment donné, à 84 ans, faut se poser les bonnes questions, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible. 84 ans, 9e mandat.
Mais il n'y a pas une liste concurrente?
Si, bien sûr. Bien sûr. Mais on sait comment ça se passe dans les petites communes. Vous avez parlé tout à l'heure des baronnies. Donc, certes, mais dans les petites communes, en fait, alors ils sont tous sans étiquette. Pour moi, ça n'existe pas, être sans étiquette. C'est pas possible. C'est certes, ça veut dire qu'on n'est pas affilié à un parti, qu'on n'est pas soutenu par un parti. D'accord. Mais qu'est-ce qui va voter à l'agglo? Qu'est-ce qui va voter au département ou toutes ces choses-là? Derrière, on apprend qu'ils sont tous vice-présidents de la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Donc, comme on dit chez Moscato, c'est les copines. derrière, ils sont élus, les maires des petites communes. Alors déjà, on peut se poser la question à quoi ça sert un maire dans une petite
commune. Mais ça veut dire que dans votre commune, la liste adverse n'a aucune chance, selon vous?
Il y a toujours des chances. Maintenant, le maire, il va sortir 3-4 semaines avant. Il va saler 3-4 paluches au marché. Et puis, ça va marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Fondamentalement, je pense qu'on a le fonctionnement des villes, hormis de grosses mauvaises décisions, comme on peut le voir dans les grosses structures, on a l'inertie de fonctionnement. Après, vous apprenez qu'il y a la cousine, la nièce, l'oncle, la tante, le beau-frère de la belle-sœur qui travaille à la mairie. Vous apprenez, enfin, c'est
à la tête d'une association ou quoi.
Après, Benjamin, il y a aussi beaucoup de maires âgés qui se représentent, que l'on pas envie, mais on n'en trouve pas de successeurs. On n'en trouve pas, notamment dans les petits villages, pas dans les grandes villes. Je pense qu'à Créteil ou
ailleurs,
Célimouignon, on en trouvera d'autres.
Benjamin, pour vous remercier d'avoir été dans les GGO 32-16, je peux vous offrir des places pour le Salon de l'Agriculture pour venir voir les grandes gueules demain ou après-demain, si vous le pouvez, d'ailleurs. Ça vous dit ou pas?
Écoutez, avec grand plaisir, on va essayer de faire ça.
Voilà, je vous fais passer des places pour le Salon de l'Agriculture. Merci Benjamin d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules, Salon de l'Agriculture au stand des Hauts-de-France. On y est demain et après-demain. Municipal, est-ce qu'on doit limiter le nombre de mandats? Vous dites oui quand même. Il faut le limiter. Vous dites oui à 65%. Les grandes gueules avec Antoine Dierce, avec Elina Dumont et avec Charles Consigny. Dernier petit sujet de discussion dans un instant. Avec vous au 32-16, est-ce que vous squattez les places des voitures électriques?
Bien sûr.
Est-ce que vous vous garez lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de voiture électrique, vous dites désolé, je trouve pas de place ailleurs.
Et pas que celle-là.
Je m'y mets et puis je peux rester 10 minutes, un quart d'heure à pas m'emmerder. Et visiblement, ça commence à se faire de plus en plus. C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules. Il est midi moins 25. Je parle pas des places handicapées, bien évidemment. Je parle bien des places voitures électriques et les places livraison. Ça, c'est devenu normal. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules, tous les jours avec vous en direct sur RMC et RMC Story. Les deux prochains rendez-vous des GG, demain, après-demain, au stand des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture. Lundi, nous serons à Nice, les amis, amis niçois, mes chers compatriotes. On vous attend à la Villa Masséna et j'espère que vous serez nombreux pour venir suivre l'émission en public. D'autant que le soir, ce sera le grand débat entre le maire sortant Christian Estrosi et son challenger Éric Ciotti. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV et BFM Nice Côte d'Azur. Ça, ce sont là les trois prochains rendez-vous. On compte sur vous. En attendant, les amis, avec Elina Dumont, avec Charles Consigny et Antoine Dierce, on va s'intéresser aux incivilités. Quoique, est-ce que se garer avec sa voiture thermique, là où c'est normalement une place pour une voiture électrique, est-ce que c'est vraiment de l'incivilité? 32-16 pour en discuter avec les GG.
En tout cas, si l'on en croit le Figaro qui fait un papier là-dessus, c'est le cauchemar des possesseurs de véhicules électriques à batterie. C'est cette occupation illégale des aires de recharge par des voitures à essence, parce que voilà, t'arrives avec ta voiture électrique et toutes les places sont prises par des voitures thermiques et donc tu peux pas recharger ta voiture. Ces aires, on les voit partout maintenant sur les supermarchés, les centres commerciaux, les parkings d'entreprise et puis sur la voirie. Il y a de plus en plus de véhicules électriques, donc il y aura de plus en plus de places réservées pour recharger ces véhicules électriques. Donc moins de places pour les thermiques. Donc là, il y a une bataille, il y a un conflit. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que c'est vraiment scandaleux? Est-ce qu'il faut pas... La loi est pourtant claire, se garer sur une place réservée à la recharge est interdit pour les véhicules non autorisés. Le stationnement est considéré comme un stationnement gênant et donc il y a un article qui condamne ce stationnement gênant. C'est une amende forfaitaire de 35 euros et tu peux partir en fourrière, la fourrière du véhicule. Voilà.
35 euros, tu risques, tu tentes ta chance quand même. Antoine Dierce.
Alors,
une voiture électrique ou pas? Je me souviens pas. Ou hybride rechargeable.
Une hybride rechargeable.
C'est ça. Donc, t'as quand même besoin de temps en temps.
Je la recharge. Et donc, de temps en temps, je suis bien content que ce soit une hybride rechargeable. Et je me recharge opportunément alors que la batterie n'est pas tout à fait vide pour pouvoir me garer.
Oui, parce qu'une voiture électrique qui se gare sur une place réservée aux véhicules électriques mais qui ne recharge pas sa batterie, là aussi c'est interdit.
Exactement. Et il m'est aussi arrivé à de nombreuses reprises de vouloir me recharger et de tomber sur des véhicules thermiques qui s'étaient garés sur cette place-là. Quand on est utilisateur d'un véhicule électrique, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de place que ça pour les véhicules électriques. Et j'ai vu des gens absolument désemparés, j'ai plus de batterie et toutes les places sont occupées par des véhicules thermiques.
Oui, mais alors l'argument de ceux qui font ça, et j'en connais autour de moi, c'est de dire oui, mais elles sont toujours vides, ces places.
Et c'est pas vrai.
Alors c'est un peu idiot parce que c'est le principe. C'est-à-dire que
Bah, ils sont vides, ça permet que justement.
Faire de la rotation.
Ça permet la rotation, voilà. Voilà.
Et franchement, moi qui suis un garçon gentil, ça me viendrait pas à l'idée de bloquer le mec qui peut pas se recharger, qui donc n'avance
égoïste.
Plus.
N'avance
plus. Et je trouve ça parfaitement égoïste,
ouais. Charles.
Mais dans le Nord, une voiture électrique, comment tu fais?
J'ai pas dit une voiture solaire.
Elle supporte mal le froid.
C'est pour ça que j'ai une hybride, je te dis. Hybride rechargeable, mais effectivement, j'ai vu la batterie fondre en hiver.
À la place, dans ces contrées, je prendrais un truc à l'ancienne.
Bah, le gros 4x4, j'ai
bon
bien
vieux
pensé.
Diesel,
c'est mon côté écolo de droite.
Ou un traîneau.
On est sûr qu'il démarre. Ou éventuellement une voiture à cheval.
Je suis à vélo le reste du temps.
Écoutez, je reconnais me garer n'importe comment. Toujours au plus près de ma destination,
ouais.
Et sans le moindre égard pour les réglementations. Donc je l'assume. Par exemple, les places livraison, je considère qu'elles sont disponibles. Les entrées de garage des uns et des autres.
Ah bon, carrément.
Mais je me gare jamais très longtemps aussi. C'est quand tu fais des petites
courses. Donc les bateaux, par exemple, tu y vas.
Ce qu'on appelle les bateaux. Les gens n'ont qu'à attendre. C'est bon. Non, ça j'exagère un petit peu, mais ça m'arrive par exemple de me garer. Parfois, il y a des endroits, pas vraiment des places, mais c'est des espèces de terre-plein.
On appelle ça un trottoir, Charles.
On peut des très larges trottoirs. On se gare, ça dérange personne. On est là pour un quart d'heure.
Qu'est-ce que tu penses,
pour les piétons,
par exemple. Et par ailleurs, donc ça, c'est en voiture et en scooter. Alors là, je l'assume aussi absolument. Et d'ailleurs, je déteste quand les piétons me font des réflexions. Je considère que le trottoir fait partie du domaine skiable, si vous voulez. Je n'ai que mépris pour les gens.
Tu peux prendre des amendes là aussi.
Alors, on prend des amendes, c'est vrai, il faut... Mais étrangement, c'est vous dire d'ailleurs le caractère pernicieux de ces réglementations, et notamment de la mairie de Paris, on prend plus d'amendes quand on se garde à la bonne place pour les scooters, parce que c'est là qu'ils viennent contrôler.
Oui, ça c'est vrai.
Si on oublie de payer son stationnement, mais qu'on est dans la place dévolue aux scooters ou aux deux roues, on prend plus d'amendes que si on se gare n'importe comment ailleurs, là où les contrôleurs ne passent pas.
Ouais.
Donc en fait, on rançonne les gens qui se garent bien. Moi, le fond de ma pensée, c'est qu'on emmerde beaucoup trop les automobilistes et les motards, et donc je suis pour une certaine liberté dans la.
Je suis pour que la liberté
d'aller et venir soit consacrée, et je suis pour l'anarchie en matière de déplacement.
Elina.
Alors, il est vrai. Alors, je vais parler principalement de Paris parce que
on n'a plus le temps, Elina.
Ah, tais-toi. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voitures électriques et de voilà. Et j'en arrive à penser, est-ce que c'est pas pour qu'il y ait de moins en moins de voitures?
Bien sûr.
Non, mais je pense qu'il est là le truc. Un jour, les voitures pourront plus se garer. C'est quasiment
Paris,
sûr. Oui, Paris.
Mais on fait tout pour que les voitures.
Oui, mais on fait tout. Je pense que. Et il est là, moi je pense qu'il est là le plan.
Alors on a un petit appel de Montesson dans les Yvelines avec Damien. Oh, vous allez aimer Damien, bonjour.
Bonjour les GG, vous allez bien?
Ouais, ça va Damien. Alors qu'est-ce que vous en dites de ceux qui se garent sur les places des voitures électriques, là où on a les prises quoi?
Moi je vais surtout vous raconter une anecdote, parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant que ça peut leur arriver, donc ça va peut-être faire peur à ceux qui se garent sur les places électriques. En gros, moi j'étais en voyage pour faire un petit tour du côté de Reims, et je suis arrivé du coup avec 2% de batterie. Sur les applications, vous savez, il y avait les bornes de libre, donc je suis allé là-bas. Et deux véhicules thermiques, du coup, garés sur les bornes, donc indisponibles. Donc là, forcément, j'étais énervé. Je me suis dit, je vais appeler la police pour qu'ils viennent mettre des amendes. Et en fait, la police a fait mieux que ça. Ils sont venus avec, du coup, une dépanneuse qui a soulevé les voitures et les emmenés à la fourrière.
Voilà. Ah, oui. vous avez appelé les poulets, quoi, pour faire enlever les bagnoles.
Je pensais qu'ils allaient surtout mettre une amende parce que j'étais très énervé. Et en fait, ils ont dit, non, vous pouvez. Ils ont dit, c'est inadmissible, vous pouvez plus vous déplacer parce que vous avez plus de batterie. Ouais. Donc en fait, on va enlever. J'ai dit, mais vous pouvez enlever qu'une sur les deux. Ils ont dit, non, on va pas faire plouf plouf, on enlève les deux.
Qu'est-ce que vous avez comme voiture électrique, Damien?
J'ai une Tesla.
Ah, vous en êtes satisfait?
J'aime pas les Tesla, tout le monde a un peu peur de passer à l'électrique.
Ouais.
Et en fait, si on est sur des véhicules, on va dire modernes, la Tesla, elle a un an, c'est vrai que c'est très pratique. Après, moi, mon avis, c'est surtout que l'électrique, c'est bien pour ceux qui sont comme moi sur Paris, région parisienne, et qui font de temps en temps des déplacements.
Et pourquoi vous prenez pas la Renault 5?
Parce qu'ils sont nuls.
Non, la R5, elle est bien.
Elle est bien. 200 km d'autonomie.
Faut être un peu patriote.
Et la Tesla, vous avez combien d'autonomie maintenant au total?
Alors, c'est annoncé à 600, mais on en fait, on va dire, mais 500.
Est-ce qu'il faut plus de stationnement pour les véhicules électriques? Est-ce que vous pensez qu'il y en a assez ou il en faut plus?
Bah, moi, je suis sur Paris, il y en a beaucoup.
Ça c'est vrai.
Oui, je sais.
Il y en a beaucoup, on galère pas. Surtout maintenant, il y a des superchargeurs où moi, j'y vais, je la laisse 10 minutes à charger, je passe 2-3 coups de fil et c'est reparti pour un tour.
Mais au boulot aussi maintenant, parce que nous, par exemple, ici, on a un parking donc dans l'entreprise, il y a des places réservées pour les véhicules électriques. Je connais certains aussi proches de nous qui n'hésitent pas à se garer sur ces places électriques avec un véhicule thermique.
Ou à laisser leur voiture et occuper la place de stationnement électrique très longtemps.
Oui, oui, bah, toute la journée quasiment.
Ouais. Allez, faut l'enlever.
Mais Damien, est-ce que merci de ce témoignage, Damien. Est-ce que je vous offre des places pour le salon de l'agriculture pour demain et après-demain? Vous pouvez venir nous voir.
Eh ben, écoutez, moi, je suis déjà venu lundi. Ça m'a coûté cher en point de vie.
Sinon je vous passe des places si vous voulez filer à des copains pour qu'ils viennent au salon de l'agriculture. Merci Damien, merci d'avoir été avec nous du côté de Montesson dans les Yvelines. Maintenant on va aller à Angers dans la Maine-et-Loire. Attention, vous avez
J'ai entendu
dans la Maine-et-Loire. Non, c'est la Maine-et-Loire parce que ce sont les deux rivières. La Maine-et-Loire.
Ouais,
bien sûr. Ah ben je me suis fait reprendre au salon de l'agriculture.
Oui, enfin par une personne. Tout le monde entier dit le Maine-et-Loire. Il y a une personne.
On va vérifier auprès de Cédric. Cédric, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
On dit la Maine-et-Loire ou le Maine-et-Loire alors ?
Alors moi, je suis natif d'ici. J'ai toujours dit le Maine-et-Loire, mais en effet, si on réfléchit deux minutes, c'est la Maine et c'est la Loire, donc ça devrait être la Maine-et-Loire.
Alors,
comme c'est un département, on appelle ça le département du Maine-et-Loire.
Moi, c'est ce que j'ai dit, mais comme je me suis fait reprendre de voler par un habitant.
On dit la Saône-et-Loire.
Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en dites, vous, les véhicules thermiques qui se garent là où il y a les électriques ?
Je suis le premier à pester. Déjà, je suis moitié en voiture, mais là, je suis le premier à pester parce que moi, je suis en véhicule électrique, non pas par choix, mais du fait que c'est un véhicule de fonction et je paye un loyer dessus. Et avec la réglementation STAF qui a changé l'année dernière, rouler en thermique, ça nous coûte une blinde. Donc, je suis en électrique. Je suis convaincu d'électrique aujourd'hui. Maintenant, moi, quand je me gare sur une place... véhicule électrique, je paye pour me stationner, en fait, puisque je me branche. Donc quand je vois un mec qui vient avec sa bagnole thermique parce qu'il n'y a pas de place, alors je peux l'entendre, hein, il se gare, je lui fais la remarque, je me fais presque engueuler et insulter parce que lui il estime qu'il a le droit de se garer là. Sauf que c'est un peu délicat parce que au-delà du fait d'être en électrique pour des convictions qu'on a ou qu'on n'a pas, je paye pour me recharger. Donc quand je vais sur une place de parking réservée pour véhicules électriques, je paye pour me recharger.
Oui. Et vous avez
aujourd'hui
raison.
C'est rentré dans les mœurs de pas se garer sur les places pour personnes à mobilité réduite, ce que je trouve parfaitement cohérent.
C'est normal.
Je pense que ça va mettre du temps. Et malheureusement, ça passera.
Mais vous avez raison de rappeler fort justement.
C'est une question de civilité.
Et puis c'est payant. Ceux qui viennent sur l'électrique, ils payent pour se recharger. Merci Cédric d'avoir été dans les GG. C'était le mot de la fin. Direction le stand des Hauts-de-France, le salon de l'agriculture. On y retrouve Estelle Denis pour Estelle Midi. Bonjour.
Salut les GG. Ben oui, on est en direct du salon de l'agriculture et on est ravis d'être ici avec Estelle Midi. On parlera bien sûr agriculture, on parlera de tous nos producteurs, on parlera également de ces 2000 postes menacés chez SEB, notamment à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre emploi? Dites-nous tout au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 0612 424 424. On parlera également du boom des importations de fromages et de fruits et légumes. Est-ce qu'il faut faire les fort de consommer français pour sauver nos agriculteurs? Il y a 40% de nos fromages qui sont importés aujourd'hui en France. Et puis, vivre à la campagne, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Bah écoutez, on attend vos témoignages au 3216. On va être dans Estelle Midi avec Yaël Mellul, Jérôme Lavrieux, Charles Magnien et Juliette Brien. Ça tout de suite dans Estelle Midi.